histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Rose Michaud.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie Corso.
Bonjour.
Alors vous êtes donc toutes deux médiatrices culturelles au sein des archives départementales du Tarn, du service éducatif, et en cette année 2014, donc vous vous attachez à faire revivre pour nous, grâce aux archives, ce que fut la vie il y a 100 ans, lorsque débuta la tragique Première Guerre mondiale. Alors, lors de notre précédent rendez-vous, vous aviez évoqué la vie des femmes.
Oui, et nous avions vu donc comment les femmes ont remplacé les hommes donc durant ce conflit, puisque les hommes avaient dû quitter leurs champs, leurs usines, leurs commerces, suite à la mobilisation générale le 2 août 1914. Certains documents que nous avions mis en évidence, comme l'appel aux femmes françaises lancé par René Viviani, président du Conseil des ministres, mettaient alors en évidence le rôle essentiel des femmes dans le maintien de la production agricole, nécessaire à la subsistance de la population civile et militaire, et posaient déjà de fait la question du ravitaillement. Cette question était cruciale pour le gouvernement. Aussi va-t-il, pendant toute la durée des hostilités et quelques temps après le retour à la paix, déployer un arsenal administratif et réglementaire pour assurer le ravitaillement du pays, créant même en septembre 1917, année où s'exerça des tensions de toutes parts, le ministère du ravitaillement général. C'est donc à cet aspect de la Première Guerre mondiale que nous allons consacrer cette nouvelle émission, en nous appuyant pour l'essentiel sur les archives relatives aux affaires militaires et organismes de temps de guerre, provenant en grande partie de la préfecture, des archives de la préfecture. La question du ravitaillement donc est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dès les premières heures de la guerre. Ainsi, dès le 2 août 1914, le préfet du Tarn, Pierre Bouju, rédige cet appel. « Aux patriotiques populations du Tarn, pour que les agriculteurs se présentent à la mairie de leur commune pour faire les offres de denrées nécessaires au ravitaillement des armées et de la population civile. » Dans le même temps, sur les murs de l'île sur Tarn s'affiche cet appel grandiloquent du maire Victor Mallet. « Mes chers concitoyens, à cette heure solennelle, où dans un magnifique élan et avec un saint enthousiasme, nos enfants et nos amis courent à la frontière, nous avons tous une mission sacrée à remplir. Aucun de vous, j'en suis sûr, n'en faillira. Tous unis dans un même sentiment de dévouement et de fierté patriotique, nous saurons être à la hauteur de tous les devoirs à mesure qu'ils se présenteront. Pour le moment, il s'agit de collaborer, chacun dans la mesure de nos forces, à l'œuvre de la mobilisation nationale. En ce qui me concerne, je me tiens nuit et jour à la disposition de l'autorité civile et militaire, mais j'ai besoin que vous m'aidiez dans l'accomplissement de ma noble tâche. Je vous demande donc, dès aujourd'hui, et le plus tôt possible, de venir vous faire inscrire à la mairie et de me faire connaître la quantité de foin, paille, avoine, orge, maïs, blé et farine que vous pouvez fournir afin d'assurer le ravitaillement civil et militaire. Le tout vous sera largement payé au comptant. Et maintenant, mes chers concitoyens, haut les cœurs et haute les armes, que toutes nos volontés, que tous nos efforts soient tendus vers le succès de nos armes et vers le salut de notre patrie. Alors, généreusement servie par tous ses enfants, la France, notre bien-aimée France, triomphera.
Il semble qu'avant même la pénurie engendrée par des difficultés de production et d'acheminement, les problèmes émergent avec le mouvement de panique dont a été saisie la population au moment de la déclaration de la guerre. Les adjoints au maire de Gaillac, messieurs Dubourreau et Pêche, tout en rappelant les Gaillacois à la raison, se veulent compréhensifs.
Un instant affolé, une partie de la population a pu augmenter sa provision en denrées, dans une mesure supérieure à ses besoins ordinaires. Elle a pu ainsi contribuer à un renchérissement subit de nature à porter l'anxiété dans un grand nombre de familles, qui, après avoir virilement accepté les sacrifices que réclame la patrie, pouvaient craindre d'avoir, par surcroît, à subir une augmentation sur les objets de première nécessité.
Ils réagissent rapidement pour enrayer la hausse générale des prix.
Si le commerce d'alimentation, d'autre part, dans un premier mouvement d'irréflexion, s'est laissé aller à une majoration des prix pour éviter l'accaparement, il s'est vite repris et une entente s'est produite entre la municipalité et le commerce pour établir des prix en rapport, autant qu'il a été possible, avec les ressources de la population ouvrière.
Cette intervention des pouvoirs publics pour assurer l'approvisionnement régulier des populations et des armées, mais aussi assurer le contrôle des prix, s'exerce donc dès août 1914. Or, dans ce domaine, rien n'avait été envisagé jusque-là. Les dispositifs vont donc être expérimentés et perfectionnés tout au long de la période de guerre, car dans un contexte où l'on considère que l'effort de chacun est nécessaire pour mener à la victoire, il est important d'assurer à la population des conditions de subsistance suffisantes pour lui permettre de tenir. Les interventions en matière de ravitaillement ne portent que sur les denrées reconnues comme réellement indispensables et sur certaines denrées de substitution. Dans la première catégorie, celle des denrées essentielles, se trouvent les céréales panifiables, la viande, le sucre, le lait, les produits laitiers, les œufs, le vin, les huiles et les matières grasses. Dans la seconde, celle des produits de substitution, figurent les pommes de terre, les légumes secs, la saccharine, utilisée en remplacement du sucre et qui fait figure d'ailleurs du plus ancien édulcorant, la bière et le cidre. Concernant la pomme de terre, citons cette affiche datée du 4 août 1914, signée conjointement par le préfet du Tarn et la mairie d'Albi.
Pendant la période des hostilités, la pomme de terre sera un des aliments principaux de la population civile. Il importe d'éviter toute spéculation sur cette denrée, tout en la tarifiant à un prix susceptible de provoquer des offres nombreuses de la culture, actuellement privée de bras et moyens de locomotion.
Comme les denrées précédemment citées, elle fera l'objet d'une surveillance accrue. Production, constitution de stock, expédition. Ainsi, cette petite note adressée au préfet du Tarn en mai 1917.
Monsieur le préfet, le bruit n'en est pas répandu, mais il a été dit par une personne digne de foi et au courant des choses de la gare que samedi courant, jour de marché à Castres, il a été donné à des Espagnols un wagon où on a logé des pommes de terre à destination de Toulon. Ce fait me paraît sans suspect, mon devoir m'oblige à vous en faire part pour que vous jugiez s'il y a lieu d'informer.
La surveillance et le contrôle augmentent avec le renforcement de la réglementation, de la production, de la commercialisation et de la consommation des denrées. Le 7 novembre 1915, déjà,
télégramme intérieur à préfet, France, circulaire. Je vous invite à suivre avec la plus grande attention les transactions qui s'opèrent dans votre département. Procédez à une enquête dans les principaux centres de production et de vente. Surveillez les foires et les marchés et signalez immédiatement au parquet tout ce qui, par des mesures d'accaparement et d'agiotage, fausserait le cours des denrées et porterait ainsi un grave préjudice à la nation. Agissez avec la plus grande sévérité vis-à-vis des mauvais Français. Tenez-moi au courant.
Une des mesures prises par l'État pour assurer l'approvisionnement de tous est le contingentement et les réquisitions des denrées. Le préfet du Tarn rappelle au maire du département, le 14 mai 1917, la nécessité de leur engagement dans ces dispositifs.
Ce serait une grave erreur de penser que, parce qu'on appartient à un pays producteur de céréales, de viande de boucherie et de charbon, les précautions nécessaires ailleurs peuvent être utiles ou exagérées. En fait, à l'heure actuelle, tous les départements sont solidaires les uns des autres, en besoin comme en ressources, et dans le Tarn en particulier. L'économie doit être d'autant plus la règle que, pour d'autres régions moins avantagées, il a été fait de larges prélèvements sur nos provisions naturelles et que, partant, chacun est de plus en plus tenu à de veiller, sans gaspillage, à la conservation de la part qui nous est indispensable.
Pour autant, moins d'un mois plus tard, la commission des ressources du département du Tarn émet de sérieuses réserves sur les efforts demandés au département dans le procès-verbal de sa séance du 5 juin 1917. Elle relaie le mécontentement exprimé tant par les producteurs que les élus.
Le département du Tarn a été imposé par décision de Monsieur le ministre du Ravitaillement du 13 mai 1917 pour la campagne 1917-1918 pour une quantité de 660 000 quintaux de fourrage. Dès que ce chiffre a été connu, la décision prise a été l'objet de protestations unanimes de la part des producteurs et des corps élus. Dans sa séance du 5 juin 1917, la commission d'évaluation des ressources crut devoir faire des réserves. L'écho s'en est fait sentir jusqu'au Conseil général où la question a été portée en août et en septembre 1917, et le calme n'ayant reparu qu'en raison de sa promesse faite qu'une révision des contingents départementaux aurait lieu dès que l'on connaîtrait l'importance de la récolte. Or, une décision ministérielle en date du 6 décembre 1917 vient de fixer définitivement à 260 000 quintaux le contingent assigné au département du Tarn.
La question se pose, le département peut-il fournir ce contingent ?
Oui, si l'on prend le fourrage sans se préoccuper de la nourriture des animaux existants dans le Tarn. Non, si l'on tient compte de ses besoins.
La commission expose les motifs.
Depuis la mobilisation, le Tarn a été imposé de quantités considérables en fourrage et la réalisation s'élèverait au 30 novembre 1917 à 668 000 quintaux. Ces contingents ont été réalisés jusqu'ici parce qu'il existait dans les granges d'importantes réserves de fourrage provenant de récoltes antérieures. Ces réserves sont aujourd'hui épuisées et c'est avec la seule récolte de 1917 qu'il faudra faire face aux besoins.
Puis elle apporte des précisions sur cette fameuse récolte de 1917.
De l'avis de tous les cultivateurs, la récolte en fourrage en 1917 est franchement déficitaire. Beaucoup d'agriculteurs prétendent qu'ils ont récolté un tiers de moins que les années précédentes. Il peut y avoir là un peu d'exagération, mais il n'est pas douteux que l'hiver 1916-1917, très long avec périodes pluvieuses à température basse qui se sont prolongées jusqu'en mai et qui ont retardé considérablement la végétation, a nuit beaucoup à la récolte des fourrages, laquelle n'atteint certainement pas les 4/5 d'une récolte normale. Par suite, il ne semble pas possible, raisonnablement, de réaliser l'imposition dont est frappé le département. Ce qui le prouve, c'est que, d'une part, de nombreux propriétaires se trouvent dans l'obligation d'acheter des fourrages pour livrer les quantités qui leur ont été réquisitionnées. D'autre part, que les cours des fourrages ne cessent d'augmenter. Si l'on ne veut pas épuiser le département, obliger des propriétaires à vendre leur attelage et laisser ensuite des terrains cultes, il est indispensable de réduire le contingent imposé. Il faut que chaque exploitant puisse nourrir son bétail pour le faire travailler et maintenir, sinon augmenter, la production.
Les problèmes de fourrage impactent aussi directement la production de viande destinée à la consommation. Le ravitaillement des boucheries rendu encore plus difficile par les réquisitions militaires, comme le souligne le comité extra-municipal d'approvisionnement le 28 janvier 1917.
Messieurs Blache et Mathieu exposent la pénurie des moutons et brebis qui existent dans la campagne. En ce moment, il n'est plus possible d'assurer un animal de race ovine le ravitaillement des boucheries pour la population civile. Il serait d'avis, afin d'essayer d'enrayer le mal, de demander la suppression des réquisitions militaires pour ce bétail et de défendre l'abattage de tous les agneaux.
Qu'il s'agisse des céréales ou de la viande, la France fait un recours massif aux importations. À titre indicatif, la viande congelée représente plus de 80% de l'approvisionnement du front en 1918. Le gouvernement met aussi en œuvre des mesures plus symboliques pour réduire la consommation de la viande. C'est ainsi que le décret du 14 avril 1917 inaugure le système des jours sans viande, en l'occurrence les jeudis et vendredis. Dispositif renforcé en 1918 avec l'instauration de 3 jours sans viande au lieu de 2.
Alors là, à ce moment de notre émission, nous allons faire une pause musicale avec Georges Brassens qui nous parle justement de la guerre de 14-18.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, s'il était tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, aux gardes à vous je les félicite. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre, non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18.
du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, c'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Vous êtes sur Radio Albigès dans cette émission Histoire locale. Stéphanie Corso, Aude Michaud, qui sont médiatrices culturelles au sein du service éducatif des archives départementales du Tarn, évoquent aujourd'hui pour nous le ravitaillement qui avait créé d'énormes tensions dans notre département durant la guerre de 14-18. Alors nous continuons, Stéphanie Corso.
Nous évoquions donc les restrictions sur la viande, mais en fait les mesures les plus radicales portent sur les céréales et le sucre. La réglementation amenant donc jusqu'à un monopole d'État dès 1916 pour le sucre et novembre 1917 pour les céréales, farine et pain. Le pain et le sucre font l'objet d'un système de rationnement très strict avec la mise en application du carnet de sucre et du ticket de pain, dispositif remplacé en juin 1918 par la carte d'alimentation. Cette carte, d'abord expérimentée à Paris début 1918, est généralisée et rendue obligatoire sur tout le reste de la France à partir du 1er juin. 1918 donc. Elle vise à discipliner la consommation de l'ensemble de la population par un système de coupons. Les denrées, comme le pain et le sucre, ne pouvaient alors être achetées que contre remise des coupons qui les représentaient, le coupon 1 en l'occurrence pour le pain et 2 pour le sucre, et ce dans la limite des quantités assignées par mois à chaque consommateur selon sa catégorie. La population est répartie dans 6 catégories et reçoit en fonction une ration de pain allant de 100 grammes, en l'occurrence pour la catégorie E, regroupant les enfants de moins de 3 ans, à 500 grammes pour les personnes relevant de la catégorie T, à savoir les enfants âgés de plus de 13 ans et les adultes de moins de 70 ans exerçant des travaux de force. C'est un petit détail, mais on verra tout à l'heure qu'il a son importance. Au moment de l'application de la carte d'alimentation, l'acceptation par tous est une des préoccupations du gouvernement, comme en témoigne cette injonction du ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement adressée au préfet de France le 13 juin 1918.
Je tiens à vous rappeler la nécessité d'une propagande active et suivie en vue d'expliquer l'intérêt des mesures de restriction prises par le gouvernement et de les faire accepter sincèrement par l'opinion publique. Cette politique de restriction est, comme vous le savez, rendue indispensable par l'état de nos approvisionnements et la nécessité de réduire nos achats à l'étranger. Il faut réserver les navires au transport des soldats américains. La France n'est pas la seule à pratiquer cette politique et pour pouvoir demander à nos alliés leur aide au point de vue économique, il faut qu'ils sachent que les privations qu'ils s'imposent correspondent à des privations analogues en France. Cette politique ne peut porter ses fruits que si elle a l'appui de l'opinion publique, c'est-à-dire que si les restrictions sont non seulement observées en vertu des lois et règlements, mais encore spontanément consenties avec le sentiment qu'en s'y conformant, les Français travaillent pour leur pays. C'est ce que je vous demande de faire comprendre par tous les moyens à vos administrations.
Le contrôle de la carte d'alimentation exercée dans toutes les communes du Tarn durant l'été 1918 est riche d'enseignements. Les commentaires qui sont consignés en fin des formulaires mettent en évidence des pratiques qui peuvent sembler étonnantes, comme à Castres.
La mairie a pris une bonne mesure en ne délivrant les permis d'inhumer au fur et à mesure des décès que contre remise de la carte d'alimentation.
Cette mesure semble plaire à l'administration, puisque l'on trouve au détour d'un autre document cette petite mention manuscrite.
En cas de décès, certaines municipalités exigent la remise de la carte d'alimentation pour délivrer le permis d'inhumer. C'est là une bonne mesure qui pourrait être généralisée.
Mais ces formulaires mettent surtout en évidence que l'acceptation des restrictions souhaitées par le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement ne va pas de soi. Si certaines communes, comme Saint-Paul, Cap-de-Joux, font figure de bons élèves, on y perçoit aussi les réticences émises par d'autres.
La réglementation des cartes d'alimentation a été observée dans Saint-Paul d'une manière rigoureuse dans son esprit et dans sa lettre. Une comptabilité fort remarquable est tenue de toutes les opérations. Monsieur le maire de Saint-Paul-Cap-de-Joux se plaint très vivement de certaines tolérances qui lui ont été signalées dans les communes voisines, tolérances que j'ai d'ailleurs constatées moi-même, et qui toutes sont relatives au classement de certaines catégories de consommateurs. À l'objection présentée par Monsieur le maire de Saint-Paul, il m'a été répondu par d'autres maires qu'à leurs yeux, la carte de pain avait été établie pour restreindre la consommation et que le but avait été atteint dans leur commune sans soulever aucun incident ni aucune réclamation. En ce moment, de gros efforts de la part des agriculteurs, on peut considérer comme un réel succès d'avoir pu
faire accepter le régime de la carte de pain par une population agricole. Ce succès est dû à l'habilité et à l'esprit de tolérance et de modération de certaines municipalités. Telles sont les deux thèses qui m'ont été développées par divers maires. Elles ont l'une et l'autre de sérieux arguments qui militent en leur faveur. J'ai cru devoir les transmettre à l'autorité supérieure afin de provoquer, s'il y a lieu, des instructions spéciales à ce sujet.
Voyons encore comment la commune de Moularès justifie ces généreuses attributions.
L'office communal de Moularès a attribué uniformément 500 grammes de pain à tous les habitants de la commune âgés de 11 ans et au-dessus. Aux observations que j'ai présentées, il a été répondu que les récoltes dans Moularès sont belles, que toutes les terres sont cultivées et qu'il était juste de récompenser la population de l'effort considérable qu'elle avait fourni pour obtenir ce résultat.
On y perçoit aussi des stratégies déployées par la population pour obtenir de meilleures rations. Ainsi, cette lettre du maire de Sorèze, adressée au préfet du Tarn le 1er juillet pour justifier les attributions de rations supplémentaires de pain.
En réponse à votre lettre du 14 juillet courant, j'ai l'honneur de vous faire connaître que dans la commune de Sorèze, les suppléments de rations de pain pour les catégories J, A et V ne sont accordés que sur présentation rigoureuse d'un certificat médical constatant que le consommateur a besoin de suralimentation. Il n'est donc pas exact que ces suppléments soient accordés en bloc, ni que leur obtention soit la règle générale. Dans les renseignements statistiques que j'ai transmis le 24 mai dernier, j'ai d'ailleurs indiqué d'une manière précise et par catégorie le nombre des suppléments accordés à cette date. Depuis cette époque, d'autres certificats médicaux ont été produits, et quoique leur nombre soit relativement important, je n'ai pas cru devoir discuter l'avis des médecins qui les ont délivrés. Je fais remarquer à nouveau que la consommation du pain dans la commune de Sorèze depuis le 1er mai est inférieure d'un bon tiers à la consommation antérieure, malgré l'augmentation très réelle et toujours croissante de la population.
La tension au sein de la population et la pression exercée sur les élus sont perceptibles. Il est reproché au maire de la commune de Dourne
d'avoir accordé indistinctement des suppléments à tous les consommateurs des catégories A, T et V. Or, il n'est pas exact que tous ceux des catégories A et V se livrent à des travaux de force.
Mais celui-ci se défend dans une lettre adressée au préfet le 5 juillet 1918.
En réponse à votre note, monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la distribution pour le mois de juillet est déjà faite. Quant à la rectification, elle est déjà faite, vu que par suite du manque de farine, j'ai été obligé de réduire de moitié à tout le monde. Dans tous les cas, j'avais, avant de vous montrer aussi large, j'avais adressé plusieurs pétitions au sujet des demandes de suppléments qui avaient été faites par des catégories d'ouvriers ou ouvrières appartenant à la lettre A, chiffonnière et bonnetière, puis concernant la lettre V, travaillant comme ardoisier et le plus grand nombre comme cultivateur. Et je n'ai pas reçu de réponse, et dans tous les cas, de faire de mon mieux.
Les élus ne sont pas les seuls à être mis en cause dans la non-application de la réglementation. Le 24 juillet 1918, le contrôleur chargé de la commune de Carlus constate
que le boulanger de Carlus ne réclame pas les tickets de pain aux consommateurs. Il résulte de cette situation anormale que les habitants ne retirent pas les feuilles de tickets qui demeurent à la mairie jusqu'à la fin du mois. Ces feuilles sont ensuite renvoyées à la préfecture. Nous nous sommes rendus chez le boulanger, qui nous a montré des tickets, mais concernant seulement les habitants des communes voisines, qui s'approvisionnent à Carlus. Le boulanger nous a avoué que pour les habitants de Carlus, il distribuait le pain sans ticket.
Mais le professeur d'agriculture chargé du contrôle des cartes d'alimentation dans les communes de l'arrondissement de Gaillac pointait déjà dans son rapport adressé au sous-préfet de Gaillac le 17 juin 1918.
Les boulangers, lorsqu'ils ne se prêtent pas eux-mêmes à la transgression des règlements restrictifs, ont de réelles difficultés à ne pas céder aux exigences souvent véhémentement formulées de la clientèle.
Parfois, les habitants ne se limitent pas à interpeller le maire ou le boulanger de la commune. C'est au préfet qu'ils s'adressent directement.
Lavore, 13 juillet 1919. Monsieur le préfet, nous vous informons que le sucre ne nous a pas été distribué alors que le commerce libre est bien approvisionné. La municipalité manque de saindoux, de petits salés et de jambon ou n'en met pas en vente. Si dans le courant de cette semaine, le sucre ne nous est pas distribué et de la charcuterie ne nous est pas vendue, nous sommes décidés à agir comme la population d'Agen et d'autres localités. Pour le calme, on ne reçoit que de l'eau bénite de cour. Nous comptons que vous voudrez bien éviter des incidents fâcheux. Quelques habitants de Lavoir.
Cette lettre anonyme est datée du 13 juillet 1919, soit 8 mois après l'armistice. les différentes lois réglementant les réquisitions des denrées et les conditions d'approvisionnement de la population prévoyaient une application durant la durée des hostilités pendant les 6 mois qui suivaient leur cessation. Ce que rappelle le préambule de l'instruction générale sur la carte individuelle d'alimentation et les tickets de consommation rédigé fin 1918.
L'armistice qui vient d'être conclu ne saurait être considéré comme susceptible de mettre un terme au régime de la répartition équitable des denrées essentielles, à la base duquel se trouve la carte individuelle d'alimentation. La nécessité de ravitailler les populations retrouvées exige un soin vigilant et une méthode précise. La paix elle-même ne mettra pas fin immédiatement aux mesures de sages économies que la France victorieuse a le devoir d'appliquer pour faire face à ses charges nouvelles. Quelque temps encore, les terres fertiles du Nord demeureront en jachère. Longtemps, le fret sera indispensable pour le transport des matières nécessaires à la reconstitution des régions dévastées. Le blé n'affluera pas immédiatement sur le marché. Il est donc prudent de ne pas laisser naître des espoirs irréalisables et de préparer les esprits aux nécessités de l'après-guerre. Lorsque le calme sera complètement revenu, lorsque la vie normale aura repris sa marche, chacun pourra ainsi jeter un regard en arrière, mesurer la part qu'il aura prise dans l'effort commun, s'en réjouir sans réserve et s'en enorgueillir à bon droit.
Mais le désir de la population d'en finir avec les restrictions se fait de plus en plus pressant. C'est dans ce contexte que le préfet du Tarn, s'adressant aux sous-préfets, maires, boulangers et minotiers du département, le 28 février 1919, rappelle chacun au respect des règles toujours en vigueur.
Par sa circulaire du 22 courant, monsieur le directeur du service central des cartes d'alimentation attire à nouveau mon attention sur des bruits qui circulent dans le public, tendant à faire admettre l'idée que l'ère des restrictions est close et que, dans un délai très restreint, il sera possible de laisser la consommation du pain entièrement libre. Sous couvert de cette liberté qu'on annonce prochaine, les abus recommencent. Le pain est livré sans ticket, les catégories ne sont plus respectées. Il importe au plus haut point de couper court immédiatement à ces informations erronées, à tendance évidente. Il n'est pas exact que le régime de la carte d'alimentation soit à la veille de disparaître. Les besoins n'ont pas diminué, bien au contraire. Les moyens de constituer des stocks n'ont pu se développer en raison directe de l'augmentation de la consommation. Une politique de prévoyance est indispensable. L'augmentation des rations a donné satisfaction à tous les besoins, certains, et la liberté complète ne pourrait conduire qu'à la licence et au gaspillage. Je prie également messieurs les maires de vouloir bien coller, dans la brochure explicative qui leur a été envoyée, les additifs qu'ils reçoivent du service de la carte d'alimentation et d'en tenir exactement compte. Étant donné le but poursuivi, il est souhaitable que ces additifs ne soient pas considérés comme des papiers sans intérêt qu'il est possible de négliger, car ils constituent en réalité la législation nouvelle immédiatement applicable. Le préfet du Tarn, André Magre.
Dans les faits, il faut attendre le mois d'août 1920 pour la levée des restrictions et février 1921 pour la suppression du sous-secrétariat d'État chargé du ravitaillement.
Eh bien, merci Stéphanie Corso, merci Aude Michaud pour cet énorme travail de recherche en archives que vous avez fait pour nous rendre compte justement des énormes difficultés du ravitaillement pendant cette période de la guerre de 1914-1918 dans notre département et pas seulement dans notre département, on imagine. Alors avant de nous quitter, nous allons donc écouter une autre chanson de cette période-là qui avait été chantée à l'époque par Mistinguette. Aujourd'hui, c'est un homme qui la chante et qui évoque bien ce climat difficile. Merci à toutes les deux. Au revoir et à très bientôt sur nos ondes.
Merci.
Merci.
La silueta de mon país. l'histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés.